France Culture, la nuit, un patrimoine radiophonique.
Adapté d'une nouvelle de Joseph Conrad, le maître du récit politique moderne, d'une nouvelle intitulée « Le retour », Gabriel raconte l'histoire d'un couple petit bourgeois qui a vécu 10 années de mariage sans amour. L'homme qui vit dans un monde sous contrôle, réglé, sans le moindre doute, voit sa femme le quitter brusquement avant de revenir. Le retour, c'est donc l'enfer du huis clos qui suivra. Mise en image par Éric Gauthier, qui travaille avec Patrice Chéreau pour la quatrième fois, sur un scénario co-signé par l'habituel complice du réalisateur, Anne-Louise Trividic, Gabriel marque les retrouvailles d'Isabelle Huppert, l'unique, et de Pascal Grégory, après La vie promise en 2002 et Les sœurs Brontë en 1979. Notons qu'en 2005, Isabelle Huppert a reçu un Lion spécial pour l'ensemble de sa carrière. Patrice Chéreau, donc, au micro de Michel Simon, c'était en octobre 2005.
Projection privée. Bonsoir, nous recevons aujourd'hui Patrice Chéreau pour la sortie de son film Gabriel, sur les écrans depuis mercredi dernier. Patrice Chéreau, votre film a été montré au Festival de Venise, un Lion d'or est allé à Isabelle Huppert pour son travail. Et donc ce film magnifique, je le dis tout de suite, pour moi me semble être un peu faire partie de cette trilogie de l'intimité. On pourrait presque appeler chaque film son frère Intimité, évidemment le premier de cette trilogie, et aujourd'hui Gabriel, Intimité.
Oui, ça parle de l'intimité, c'est exactement l'envers du film que j'ai fait, qui s'appelait Intimité. Monsieur Hervé, dans le film, dans la voix off du début, dit « Nous n'avons pas d'intimité, mais nous n'en avons pas besoin ». C'est ça un peu le... Et après, il parle de sa femme comme le plus bel objet de sa collection, qui ravit, qui le comble de la vie d'un collectionneur, en fait. La pièce de collection la plus précieuse qu'il aurait cherchée toute sa vie. Je pense que ce sont deux personnes, dans Gabriel, qui ont oublié qu'ils avaient un corps. Ce sont deux personnes qui ont oublié qu'il y avait du désir. Il y a une absence de désir. Je n'ai pas cherché à faire le contraire d'intimité. Mais un jour, je me souviens, pendant le tournage, j'ai constaté, en fait, que ce sujet était un peu le revers, un peu exactement l'inverse d'intimité, c'est vrai.
Par rapport au film précédent, La Reine Margot ou Ceux qui m'aiment prendront le train, pour prendre les deux films qui ont précédé cette trilogie, enfin ce que j'appelle une trilogie.
La trilogie,
pas
oui,
vraiment.
Oui, la trilogie,
elle s'est constituée comme ça, mais c'était un peu le hasard.
C'est le hasard.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une sorte de resserrement sur des rapports de deux, essentiellement de deux personnages, de deux frères, un homme et une femme, et cette fois-ci encore un homme et une femme, par rapport à des œuvres chorales.
Oui. C'est, alors, au début, quand j'ai fait Intimité, la question que je me posais, vous savez, je m'entendais dire dans les interviews, par exemple, j'aime bien les films choraux, j'aime bien le foisonnement feuilletonesque d'un scénario, j'aime bien mélanger plusieurs histoires, ce qui était le cas de La Reine Margot et de Ceux qui m'aiment. Et en écoutant cette réponse, en m'entendant faire cette réponse, je me disais, mais est-ce que c'est pas une réponse automatique qui me rassure moi-même? Est-ce que je saurais faire un film à deux personnes? Et c'est en fait ce que j'ai cherché avec Intimité. Je cherchais absolument un sujet avec deux personnages, en me centrant sur les deux personnages. Après, le fait que j'en ai fait trois de suite dans ces mêmes conditions, j'ai envie de dire, c'est malheureusement aussi pour des raisons budgétaires. C'est-à-dire que je n'ai pas eu les moyens de faire des grands films, donc j'ai produit moi-même des films d'un format plus réduit. Et comme chacun sait, c'est toujours plus facile de faire à deux personnes seulement et avec peu de moyens. Ce qui est le cas de Gabriel aussi, même si ça ne se voit pas.
Ça ne se voit pas du tout, parce que c'est un film assez somptueux.
Il est
visuellement,
somptueux,
enfin, on va en parler, du décor, de la photo, etc.
Bon, tout l'argent du film est vraiment sur l'écran, comme on dit. Plus que l'argent du film.
Voilà. Mais ce qui est frappant, d'abord, c'est l'adaptation. J'ai relu la nouvelle de Conrad, ou je l'ai lu, parce qu'on ne sait plus si on a vraiment lu des choses il y a très très longtemps. Il y a un travail considérable d'adaptation, dans la mesure où, bon, le sujet, je crois que nos auditeurs en ont entendu parler, mais enfin, tout de même, c'est essentiellement, ça se passe vers 1912-1911, dans la haute bourgeoisie, un homme, vous l'avez dit, qui considère que sa femme, c'est un peu l'un de ses plus beaux objets, le plus bel objet de sa collection, et qui, au début du film, reçoit une lettre qui lui dit qu'elle est partie, et puis, peu de temps après, elle revient, c'est le retour. Quand on lit la nouvelle de Conrad, qui est magnifique, mais qui est très sombre et très fouillée, comme toujours la psychologie chez Conrad, c'est très, mais peut-être plus que jamais dans cette nouvelle, le personnage de l'épouse est tout de même une silhouette. Enfin, elle est, alors que dans le film, elle est à égalité avec son mari.
Oui, elle est à égalité. Si vous parlez d'un mariage, si vous parlez d'un mariage qui ne réussit pas, dont l'amour est absent, j'ai pensé qu'on ne pouvait pas en rester simplement au point de vue du mari. J'ai pensé qu'il fallait que le rôle de la femme existe à égalité, qu'il fallait qu'on sache. En plus, elle dit, elle existe dans la nouvelle, mais elle est silencieuse. Elle dit des phrases absolument perpétuellement énigmatiques. C'est comme un oracle. C'est elle quand même dans la nouvelle qui dit cette phrase qui est dans le film: si j'avais cru que vous m'aimiez, je ne serais jamais revenu. Qui sonne comme un couperet. Je pense que lui-même, le mari, quand il entend ça, ne peut pas comprendre la phrase. La phrase veut dire « je suis revenu parce que je savais que vous ne m'aimiez pas ». Et donc je suis revenu dans cette maison parce que l'amour n'y habite pas. Donc il fallait développer, évidemment, le personnage de la femme, pas tant pour l'actrice que parce que le personnage de la femme était essentiel, que le fait qu'elle revienne était essentiel et qu'on a envie de savoir quelle femme elle était. Et quand on a développé le personnage de la femme, Anne-Louise Trividic, la scénariste, a très justement dit que de toute façon, il fallait recomposer complètement le couple. Il fallait se poser la question de quoi il parlait, qu'est-ce qu'il disait, qui n'est pas exactement le monde de la nouvelle. C'est une grande explication qui passe forcément par les mots, alors que dans la nouvelle, ça passait plus par le silence.
Oui. Et dans le principe aussi du mode de récit, c'est-à-dire de cette voix off.
La voix off, elle vient directement de Conrad. Alors, la voix off se calque très exactement sur le modèle littéraire, c'est-à-dire sur la grande, grande réflexion de Monsieur Hervé. C'est pas une nouvelle à la première personne, c'est écrit à la troisième personne. Mais toutes les informations que peut donner la voix off, elle les donne avant qu'il soit trop tard, c'est-à-dire avant qu'il lise la lettre. La lettre lui coupe un sifflet.
Mais comment s'est opérée cette rencontre? Pardon. Comment s'est opérée cette rencontre avec Conrad? Parce que c'est pas un des textes les plus connus, loin de là, de Conrad. Il est tiré des histoires inquiètes qu'on trouve d'ailleurs dans Quarto, dans l'édition complète chez Gallimard des nouvelles de Conrad. Mais c'est pas quelque chose qui est connu. Même les Conradiens n'en parlent pas beaucoup.
Non. Comment s'est opérée cette rencontre? C'est très simple. C'était à l'été 2003, en juin 2003, je crois. J'étais en vacances. J'ai des amis à la campagne et j'ai découvert que je n'avais plus rien à lire. Alors je suis allé dans une grande librairie de la ville d'à côté, qui était à Nîmes. Je suis allé à la FNAC et j'ai vu là les nouvelles, l'édition toute récente qui venait de sortir, des nouvelles complètes de Conrad. Et j'ai acheté le volume et je me suis dit, c'est bien, là je vais en avoir pour tout l'été. En plus, j'ai une admiration sans borne pour Conrad et j'ai lu les nouvelles dans l'ordre. Arrivé au retour, c'est le cas de le dire, je l'ai lu et tout de suite, au bout de deux pages, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un film. Là, je me suis arrêté, je me suis dit, arrête, tu vas pas commencer à lire tous les livres en cherchant un film. Tu vas très mal lire la nouvelle. Donc, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, ce serait beau, mais ça serait un film historique, j'ai pas envie. Et puis, j'ai relu cette nouvelle au mois de novembre de la même année. Et là, c'était un soir, je me souviens, je l'ai lu d'une seule traite. Et j'ai été absolument bouleversé. Je l'ai pris dans la figure. J'ai pris la fin dans la figure, j'ai pris le milieu. Je l'ai reçu complètement. J'ai eu une émotion incroyable et je me suis dit, j'ai envie de raconter cette histoire.
Ce qui est frappant, c'est que dans cette nouvelle, par rapport à l'œuvre de Conrad, c'est qu'on n'associe pas vraiment Conrad avec certains de ses contemporains. Je pense à Schnitzler, je pense à Ibsen, je pense à Strindberg. On est tout de même très proche de tout cela, ces analyses très profondes du couple. Du tournant du siècle. Et justement, alors, moi j'ai pensé à un autre film qui est Eyes Wide Shut de Kubrick, qui lui a choisi l'adaptation contemporaine. Oui. Je pense à Schnitzler parce que c'est aussi l'histoire d'un couple. C'est aussi finalement un couple qui ne va pas bien. Et au contraire, vous avez tenu à faire l'époque à reconstituer cette époque.
Oui, j'ai eu envie de l'époque. Je pensais que les problèmes de ce couple qui ne va pas bien, cette antipathie, cette absence, cette méconnaissance complète, puisque cet homme découvre une femme qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais pris la peine de connaître, j'ai pensé que ça nous parlerait à nous, forcément, aujourd'hui. Et ça nous parlerait tellement que je pouvais garder l'époque. Il y avait un plaisir à garder l'époque. Il y avait un plaisir profond à reconstituer cette sorte de peuplade en voie d'extinction qui sont, c'est la façon de cette époque-là d'être riche, la façon d'avoir, de faire des fêtes, la façon d'avoir des domestiques. Et j'ai même fait le pari qu'au bout de 20 minutes de film, on oublierait l'époque. On serait dans une vérité éternelle, d'une certaine façon, qui est la vérité des relations entre un homme et une femme, ou d'un couple marié. Et j'ai même pensé, ça je l'ai pensé au montage, j'ai même pensé que l'époque, la reconstitution, tout le décorum, pouvait même permettre de faire voir mieux les problèmes de ce couple et que je risquais de les aplatir si je les avais transposés. En d'autres termes, que tout le décorum de ce film pouvait servir de loupe, de verre grossissant, pour montrer les problèmes de ces deux personnes.
Peut-être aussi qu'on n'aurait pas vu aussi nettement qu'en le replaçant dans l'époque, le rôle des domestiques, par exemple.
Il y en aurait eu moins.
Voilà,
il n'aurait pas eu cinq domestiques. Voilà. Il n'aurait pas eu plus les extras. Parce qu'au
au centre, il y a ce couple, et puis il y a ensuite les invités, qui jouent un rôle important, dont l'amant, qui se trouve là, parmi les invités, et puis les domestiques. Et donc, parmi les domestiques, il y a cette jeune domestique à qui elle se confie.
Oui.
Isabelle Huppert,
oui.
qui a droit à son monologue aussi.
Oui, exactement. La présence de la domestique était aussi pour autoriser un monologue du personnage d'Isabelle Huppert, de Gabrielle, puisque le mari l'écrase littéralement de paroles pendant tout le film, et que c'est une parole aussi qui ne veut pas être déstabilisée, c'est une parole qui refuse le trouble, c'est une parole qui refuse la panique, puisque la grande expression du mari, c'est de poser une question, et il dit non, laissez-moi, je vais deviner. Donc il fait les questions et les réponses. À l'inverse, elle, qui dit la vérité, devait pouvoir s'adresser à quelqu'un, et pour que ça soit vraiment un monologue, elle ne pouvait s'adresser qu'à une domestique, c'est-à-dire en gros à un meuble, dont elle découvre finalement qu'elle n'est pas idiote, que cette domestique n'est pas idiote. Elle dit une chose archi méprisante, elle dit « j'aurais dû vous parler plus tôt, c'est malin ce que vous dites, si proche et si intelligente, et je ne le savais pas ». Mais en même temps, elle se confie, d'abord parce qu'elle est à une autre femme, et puis elle finit par faire ce monologue et à égaliser, je veux dire, le temps de parole de son mari, si je puis dire.
Alors comme les grands cinéastes qui viennent du théâtre, je pense que chez vous, comme on pense aussi à Visconti, à Wells, à Kazan, même à Bergman, moins à Bergman, mais néanmoins, le décor, c'est-à-dire le lieu où se situe l'action est capital. Disons, c'est un autre personnage, c'est un Lozay aussi, enfin, tous viennent du théâtre.
Oui.
Tous ces gens-là. Et chez eux, le décor est fondamental. C'est-à-dire que le décor est habité, il est un troisième... Dans ce cas, c'est le troisième personnage.
Absolument, comment, c'est le troisième personnage.
Voilà, oui. Comment ce décor a été trouvé et alors là aussi, j'ai parlé de contemporains de Conrad, il y en a un autre, c'est Proust. On pense
bien
aussi
sûr
à Proust dans ce film, dans cette reconstitution justement de la belle époque.
Ben on l'a calé très exactement, puisque la nouvelle a été écrite en 1897, et que là, je l'ai calé très exactement au temps de Proust, c'est-à-dire 1912. C'est-à-dire juste avant la Première Guerre mondiale. Le décor est important, il est entièrement décrit dans Conrad. Il n'est pas exactement celui qui est décrit, puisqu'on ne peut pas caler exactement, mais je cherchais absolument une maison qui était celle de Conrad, celle qui est décrite. Alors évidemment, c'est à Londres, dans Conrad, mais le décor avec les appliques, avec l'escalier, avec les peintures dans l'escalier, est très précisément décrit, avec les tentures. Et j'ai même reproduit, parce que je suis persuadé je suis persuadé que le cinéma entretient souvent de très bons rapports avec la littérature, principalement avec les nouvelles. Et je me suis même inspiré très profondément de la nouvelle pour raconter à la fin. Il y a 8 pages ou 4 pages à la fin de la nouvelle où il y a une domestique qui monte l'escalier et la description de l'obscurité qui envahit peu à peu la maison puisqu'elle éteint toutes les lampes. Elle n'a qu'une simple bougie dans la nouvelle. Et elle croise Monsieur Hervé, et Monsieur Hervé se cache de ses propres domestiques dans son escalier et n'ose pas remonter dans la chambre de sa femme. Et ça, je trouvais ça absolument magnifique, parce que c'est là, brusquement, où ce tombeau sépulcral qu'est cette maison, ce tombeau invraisemblable qu'il a construit autour de sa femme, prenait tout son sens.
Alors, le travail, l'exploration du décor, évidemment, c'est la caméra et la lumière.
Bon, oui.
D'ailleurs, est fait par le même homme, Éric Gautier, puisqu'il
oui.
est à la fois le cadreur et le,
oui. Et c'est surtout la quatrième
fois. Le directeur de la photographie.
Oui, et c'est surtout la quatrième fois qu'on travaille ensemble. Et je pense que maintenant on peut, le fait de travailler toujours avec les mêmes collaborateurs, comme avec Eric, comme avec Pascal aussi, comme avec François Gédigier, mon monteur, c'est que finalement on peut prendre plus de risques. Non pas parce qu'on se connaît mieux, non pas parce qu'on se dirait moins de choses, mais on va plus loin par rapport au film précédent. Et là, je dois dire, je crois que la collaboration avec Eric Gauthier est exemplaire.
Alors comment justement vous avez élaboré, parce que est-ce que ça s'est fait en amont ou est-ce que c'est une fois, enfin vous aviez une idée visuelle, bon la dominante verte, les tons mordorés, enfin il y a toute une palette chromatique qui est très évidemment très cohérente et en même temps le pas la steadicam mais le mouvement d'appareil, parce que c'est un film où la caméra explore, je veux dire, explore le temps.
Oui, oui. Le travail de la caméra, c'est une chose qu'on invente, qu'on improvise tous les jours, chaque matin, en regardant les comédiens. On met systématiquement des planchers et on sait systématiquement que la caméra va rouler, même si elle ne roule pas. Mais pour chercher des places, on met aussi les planchers. Donc elle peut rouler, elle peut toujours bouger, toujours tourner autour des acteurs, se rapprocher ou s'éloigner. Ça, on le savait. Mais on l'invente le matin même. Ce qu'on a imaginé avant, c'est le cinémascope, évidemment, le vrai cinémascope avec l'anamorphosé, et puis un certain système de référence, certaines photos d'époque, mais en les transposant, certains tableaux d'époque. Et Eric a trouvé un peintre magnifique, peu connu, qui est Fantin Latour, qui est connu, mais qui a une lumière dans ces tableaux incroyables. On a regardé Caillebotte, etc., mais c'est surtout Fantin Latour qui nous a aidés. C'est-à-dire une lumière qui tombe du plafond, une lumière qui n'est pas une lumière aimable, qui n'est pas la lumière des salons actuels où on met des lampes sur toutes les tables et avec des abat-jour qui flattent les visages, mais une lumière plus sombre, si je puis dire, plus obscure même par moment, et que je trouve magnifique parce qu'à la fois fantomatique et incroyablement charnelle sur les visages. Et là, c'est la grande, grande réussite d'Eric. Alors après, Eric a fait un mélange, c'est filmé avec de la Fuji, c'est développé, surdéveloppé, sous... c'est très compliqué ce qu'il a fait, mais c'est remis sur de la Kodak, c'est sous-exposé ou surexposé, je ne sais plus. Mais il a fait un travail extraordinaire, on a fait énormément d'essais de caméra, on a regardé les couleurs, on les a montrées aux comédiens, et après, libre de ça, on a pu improviser tous les jours en regardant ce que faisaient les comédiens et en les suivant amoureusement, j'ai envie de dire, tous les jours.
Alors vous savez qu'il y a 50 ans, quand le cinémascope est arrivé, beaucoup de grands cinéastes s'en moquaient, même Fritz Lang, je crois, il en parle dans Le Mépris, enfin il reprend des phrases de l'époque de 53-54, quand il y avait les premiers films dans le cinémascope, il disait c'est un format qui est fait pour les funérailles ou pour les processions ou pour les caravanes. Et effectivement, il y a les premiers, c'est Kazan dans Alice d'Eden qui a fait une histoire intime en cinémascope, mais on pensait que c'était pas du tout fait pour l'intimité. Et pour vous, c'était important d'avoir le scope.
Mais il n'y a pas de plus beau format pour l'intimité. Il n'y a pas de plus beau format que le cinémascope pour une scène à deux personnages. Un gros plan en cinémascope est une chose magnifique, parce qu'il y a de l'air autour, parce que les optiques sont très particulières, parce qu'il y a une profondeur de champ, parce qu'en même temps, je veux dire, quand les fonds passent dans le flou, c'est beaucoup plus beau que sur un format normal. C'est un très très grand format pour des scènes absolument intimes. Le plus beau moment, ça c'est une erreur. Ils ont tous fait une erreur, je veux dire, sur le fait que ça ne pouvait pas être un instrument pour l'intimité, c'est absolument un instrument pour dévoiler le secret des âmes, vraiment.
Alors Patrice Chéreau aussi, le film est aussi un film sur le cinéma, parce que d'abord, vous expérimentez, vous faites des choses extrêmement libres, qu'on ne voit pas couramment dans le cinéma, qui sont par exemple des titres, non pas des intertitres, mais qui correspondent un peu à l'intertitre muet, qui sont la projection des pensées du personnage. On voit s'inscrire sur l'écran des lettres.
Des morceaux de dialogue même.
Des morceaux de dialogue.
Oui.
Vous passez très librement du noir et blanc à la couleur.
Oui.
Et même on peut dire que le début du film, même si vous avez rapproché de nous l'histoire, puisque vous l'avez dit, c'est 1912, alors que chez Conrad, c'est la fin du siècle, de l'avant-dernier siècle, on pense à l'entrée du train en gare de la Ciotat. Enfin, Pascal Grégory, en noir et blanc, descend d'un train et s'avance sur le quai. C'est presque la naissance du cinéma.
Pour une raison tout à fait fortuite, qui est que la nouvelle commençait dans une gare, puisqu'il descendait du train, du train circulaire du métro londonien, et que j'ai commencé aussi dans une gare à l'arrivée du train de la Petite Ceinture. Que, d'autre part, j'avais décidé, puisque mon rêve était de faire, depuis très longtemps, mon rêve est toujours de faire un film en noir et blanc et en cinémascope. Ce qui n'est pas facile à vendre après pour la télévision. Mais ce début de film, on l'a fait en noir et blanc. Et brusquement, quand j'ai vu les images, je me suis dit, oui, ça renoue avec les origines du cinéma à cause de cette gare et à cause du noir et blanc. Mais ça n'a pas été pensé comme ça. Mais en même temps, j'ai essayé d'utiliser tout ce que le cinéma pouvait m'offrir comme moyen purement cinématographique pour raconter l'histoire. Le passage du noir et blanc à la couleur, le passage du muet au sonore. Pas du tout de la même façon que lors du cinéma muet, même si ça peut y faire penser. Parce que le cinéma muet, il était muet parce qu'il n'avait pas de son. Il ne pouvait pas l'avoir. Techniquement, il ne l'avait pas. Nous, on a le son, donc on le retire. Donc c'est un effort délibéré. Au lieu d'entendre un cri, on le lit sur l'écran. Ce que je trouve, d'une certaine façon, par moment, on ne peut pas le faire systématiquement, mais par moment plus beau. Et puis, il y avait évidemment, je ne le dirai pas, mais il y avait évidemment la fin de la nouvelle, où il y a une information de ce qui se passe, pour laquelle il n'y a pas d'autre moyen pour la faire passer au public que de l'écrire. Et j'aime bien que les choses soient écrites sur l'écran aussi, de même que j'aime bien les voix off, de même que j'aime bien les fondus enchaînés, les fondus au blanc, les fondus au noir. Et que le film essaye de trouver une vérité, mais ne cherche pas forcément à être naturel. En fait, il ne faut pas confondre la vérité et le naturel. Le naturel n'est pas toujours intéressant, mais la vérité toujours.
Vous sentez totalement libre aujourd'hui comme cinéaste. Quand on pense à vos premiers films, comme Judith Terprouve, La chair de l'orchidée, il y a tout de même un changement considérable. C'est pour vous un langage autonome.
Oui, complètement. J'ai tâtonné très longtemps, parce que pendant 4-5 films, jusqu'à La Reine Margot en fait, parce que pendant très longtemps, j'ai fait l'erreur de vouloir sauter du théâtre au cinéma. Mais pendant très longtemps, c'est-à-dire je faisais un film tous les 4 ans. 5 ans quelquefois. Et quand on fait un film tous les 5 ans, les premiers en tout cas, on n'apprend pas réellement son métier. Et surtout, il faut réapprendre les règles du cinéma. Et maintenant, je pense que je les sais. Et un jour, c'est quand j'ai fait Ceux qui m'aiment prendront le train, un jour, j'ai découvert que je savais quoi faire instinctivement avec une caméra. Et que je me suis senti libre, j'ai senti que j'avais des ailes.
Ah, vous savez, à propos du muet, je crois savoir, je l'ai lu même, que Les Fleurs de Shanghai de Wu Xiaoxian avait été une inspiration pour Gabriel, de point de vue. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que récemment, le dernier film de Wu Xiaoxian qu'on a vu à Cannes, qui va sortir en novembre, il y a 3 épisodes. Il y en a un qui se passe en 1912, je crois, et qui est muet, qui est traité avec des intertitres. C'est très différent de Gabriel, il y a des interdites. Et alors lui, il est totalement muet.
Mais j'en suis très heureux, parce que d'abord, j'ai une très grande admiration pour Wu Xiaoxian, que en plus, je pense que les cinéastes chinois d'aujourd'hui, comme Wu Xiaoxian, comme Wong Kar-wai, travaillent sur la forme aussi, chose qu'on ne fait pas moins en Europe, et qu'ils ont une grande invention sur l'utilisation des formes, puisqu'en fait, le cinéma ne fait que recycler des choses qui ont déjà été tournées d'une certaine façon, mais et font absolument et renouvellent la forme cinéma. Et que, oui, je me sens beaucoup d'affinités. Fleurs de Shanghai, je trouvais, était magnifique. Je l'ai revu. J'ai revu tout le début de Fleurs de Shanghai. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de m'inspirer de ce film. Comme m'a inspiré aussi Happy Together de Wong Kar-wai, qui est aussi en noir et blanc et en couleur. Comme m'ont inspiré beaucoup d'autres films qu'on ne peut pas imiter. Mais qui dessinent une sorte de paysage mental autour de vous et auquel on demande de vous protéger pendant le tournage, j'ai envie de dire. Je me suis placé, par exemple, sous la protection, vraiment, tous les jours, sous la protection de Jean Dublin, de John Huston, en me disant, je ne sais pas ce que je fais, mais lui y est arrivé, alors je peux y arriver moi aussi.
Alors lui ne vient pas du théâtre, mais c'est vrai que le décor aussi dans Jean Dublin est capital.
Enfin, et le rapport à la littérature, à la nouvelle de Joyce est absolument essentiel, et une grande fidélité en plus.
Alors, Patrice Chéreau aussi, moi, ce qui me frappe, alors, ça, c'est pas du tout alors une influence du théâtre, parce que je sais que vous n'aimez pas, et puis de toute façon, ça devient faux d'en parler tout le temps, mais par contre, ce qui me frappe dans votre film par rapport au cinéma, en particulier au cinéma français, mais même au cinéma d'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un ovni et c'est un film complètement différent de tout ce qu'on peut voir, c'est qu'il est fondé sur des grandes passions, enfin des passions, même si ce sont des passions froides, mais ce sont des grandes passions. C'est un film sur des sentiments forts, alors qu'on est aujourd'hui plus soit dans la dérision, soit dans les petits faits vrais, soit dans la chronique pseudo-documentaire ou simili-documentaire, alors que là, on a l'impression que la fréquentation de Shakespeare, de Racine, de l'opéra, etc., vous donne le goût qui était au fond celui de vos prédécesseurs, parce qu'on retrouve ça chez Bergman, chez Visconti, chez bien d'autres, le goût des drames et de quelque chose d'un peu hissé à un certain niveau de tension dramatique. Vous vous sentez bien tout de même un peu décalé.
Je me sens, décalé, je ne sais pas, mais je me sens avec une connivence profonde avec tous les gens dont vous venez de parler, que ce soit Bergman, évidemment, qui lui-même vient du théâtre et dont le cinéma lui-même est nourri et pétri de la connaissance du théâtre qu'il a. Je me sens bien dans des tensions fortes, dans des tensions très fortes. Je me sens très bien dans des rapports de force. Décalé, je sais pas. J'en ai pris mon parti d'être un peu décalé. Ah, vous
mais
savez.
C'est pas un reproche. Hein.
Non, mais j'en ai pris mon parti. Mais je ne le cherche pas et je ne le rejette pas non plus, évidemment.
Parce que c'est pas possible que mettant en scène Phèdre, préparant Così fan tutte, tournant Gabriel, il n'y ait pas un problème de vase communicant, non pas sur l'esthétique, mais sur justement la familiarité avec la tragédie ou avec le mélodrame, puisque
oui,
l'opéra c'est même par définition
oui,
le mélodrame.
Je sais une chose, c'est que ce soit au théâtre et au cinéma, je dirige les acteurs exactement de la même façon. Alors les gens, quelquefois dans les débats avec le public, poussent des grands cris en disant « Ah oui, mais c'est pas pareil. » Oui, mais ça, j'ai remarqué que c'était pas pareil. Je suis capable de faire la différence. Je sais qu'il faut parler beaucoup moins fort au cinéma et qu'au théâtre, il faut projeter beaucoup plus et qu'on n'utilise pas du tout, mais du tout, les mêmes outils ni la même grammaire. Mais ce que je dis aux acteurs, ce que j'insuffle aux acteurs, là où je les pousse dans les émotions, effectivement, dans des très grandes tensions, comme vous dites, je sais que c'est exactement la même chose au théâtre et au cinéma.
Alors, les acteurs, alors parlons-en. Deux acteurs fabuleux, Isabelle Huppert et Pascal Grégory. Est-ce que le scénario a été écrit avec eux en tête?
Le scénario a été écrit avec eux en tête, ce qui ne donne pas forcément les résultats qu'on attend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre à écrire des répliques en disant « je vois déjà, je sens déjà, j'entends déjà comment ils vont les dire ». Par contre, évidemment, l'apparence physique et le fait qu'ils se mariaient si bien, a priori, je veux dire, pour travailler ensemble, nous a aidés, évidemment. On savait que c'était eux, et quand Anne-Louise a écrit, mais on n'a pas fait du sur-mesure. On ne fait pas du sur-mesure, on ne se dit pas, voilà, celle-là. Parce que sur-mesure, ça voudrait dire qu'on demanderait aux acteurs de refaire ce qu'ils ont fait dans chaque film. Or, ce à quoi je tiens, c'est que les acteurs me surprennent, ou qu'ils se surprennent eux-mêmes, que ce soit des acteurs avec qui j'ai beaucoup travaillé, comme Pascal Grégory, ou au contraire avec une actrice avec laquelle je n'avais jamais encore travaillé, comme Isabelle Huppert. En fait, la démarche est la même. Chercher plus loin que ce qu'ils ont fait, soit avec moi, soit avec d'autres, essayer de leur faire découvrir quelque chose de plus, et je pense que Isabelle dans ce film est magnifique parce qu'elle est... Elle est frémissante, elle est plus fragile, elle a une sorte de douceur ou une sorte de cruauté très douce et calme. Et qu'elle est dans la scène du repas, par exemple, dans la scène de la salle de bain, je la trouve absolument magnifique et différente. Et Pascal, tout le monde voit qu'il est très différent et qu'il est différent parce que avec un acteur avec lequel j'ai beaucoup travaillé, j'essaie au contraire de ne jamais reproduire ce qu'on a fait, mais de le pousser à chaque fois encore un petit peu plus loin.
Alors pourquoi vous avez pensé à lui particulièrement pour ce rôle du mari? Qu'est-ce qu'il y avait dans... Est-ce que vous pensez à la personnalité, à des traits de personnalité, à des confidences qu'il a pu faire qui fait que vous sentez que le rôle est là?
Non, je connais très bien Pascal depuis très très longtemps. Et donc je savais qu'il aurait à la fois la morgue, l'arrogance, l'élégance extrême et l'immense fragilité. Donc il pouvait avoir la palette vraiment de cet homme qui se détruit sous nos yeux, puisque... Dans la nouvelle de Conrad, c'est lui, et c'est une destruction. Il y a un très beau livre de Stefan Zweig, qui est aussi une très très belle nouvelle, qui s'appelle « Destruction d'une âme ». Eh bien, ce que Conrad a écrit, c'est vraiment la destruction d'une âme, de cet homme qui est absolument, qui implose littéralement, qui est une explosion atomique chez lui, en lui, parce que cette femme est partie, et surtout, principalement, parce que cette femme, après être partie, est revenue.
Alors, vous avez dit d'Isabelle Huppert, c'est une magnifique machine à jouer, et j'avais envie de la dérégler.
Oui, parce que on sait, Isabelle peut tout jouer et elle a tout joué. Elle a joué absolument tous les rôles. Rien ne lui est réellement difficile. J'avais lu une interview d'elle en disant qu'on n'a pas de réelle difficulté à jouer. Mais à un moment donné, on la reconnaît. C'est-à-dire que pendant 10 jours sur le tournage, je la reconnaissais. Je trouvais ça très bien, mais je voyais que j'étais devant Isabelle Huppert. J'avais envie de ne pas la reconnaître. J'avais envie qu'elle me donne autre chose, qu'elle me donne quelque chose qu'elle n'avait pas donné aux autres. J'avais envie... C'est ce qu'elle dit elle-même de ce film, où elle dit « Je savais, il a réussi, en parlant de moi, il a réussi à me faire vaciller sur mon socle ». Ce qui est assez émouvant, parce que ça veut dire qu'elle sait qu'elle est sur un socle aussi.
D'ailleurs, il y a un livre de portrait d'elle que vous êtes un des préfaciers qui va sortir au seuil.
Oui, elle m'a demandé un texte, elle m'a demandé si je voulais écrire. J'ai dit oui. J'ai essayé de réfléchir un petit peu à cette réfléchir un petit peu au, à ce qu'est une actrice, ce qu'est un acteur, et de penser à elle dans cette capacité de vertige de l'absence froide et en même temps frémissante et brûlante qu'elle est capable d'avoir. Elle est très, très, très troublante. Et je voulais qu'elle soit troublante dans le film aussi, de la même façon.
Alors, le tournage était très rapide, mais est-ce que vous avez fait énormément de préparation avant? Et vous, si c'est rapide, vous ne pouvez pas vous permettre beaucoup de prises. Alors, comment vous préparez exactement le jeu?
Le jeu, on ne le prépare pas. On lit le texte, on termine le scénario, on vérifie le scénario. On le fait lire à haute voix par les acteurs. On écoute, on se dit avec Anne-Louise Trévédic, la scénariste, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on est sûr d'être bien compris? On y retravaille tous les jours, y compris pendant le tournage. Il fallait beaucoup préparer le film puisqu'il fallait que tous les costumes soient choisis, qu'ils soient faits, certains choisis ou loués. Il fallait meubler entièrement la maison, il fallait trouver la maison, ça a été assez compliqué, on en a trouvé deux ou trois. Et finalement, celle-là, très secrète, on a réussi à la trouver dans laquelle, surtout une maison dans laquelle il n'y aurait jamais eu de tournage. Parce que quelquefois, les maisons ont vu, certaines grandes maisons ont vu passer des milliers de tournages et finalement, on a reproduit un film qui a déjà été fait. Et surtout, il a fallu la remeubler, il a fallu trouver la taille des meubles, il a fallu trouver les lustres. Les lustres de cette taille-là étaient absolument introuvables. On a mis des mois pour trouver le grand lustre du salon, par exemple. Vérifier que les plafonds soutiennent bien les lustres, enfin que tout ça. Et après, faire des essais avec la caméra, de façon qu'une fois tout ça réuni, on puisse absolument improviser, quel que soit le nombre de figurants, le nombre de coiffeuses, de maquilleuses, d'habilleuses, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, on improvise tous les jours. Ça a été très court comme tournage, c'était monstrueusement court. Donc on a fait des très très grosses journées, puisqu'on a tourné 29 jours ou 30 jours, et que, par exemple, la gare au début, on a tourné ça en une journée. Les rues, une seule journée. C'est-à-dire, c'est... Par contre, des scènes entières comme le grand dîner, 3 jours, 4 jours, le temps était là et j'ai eu le temps de faire beaucoup, beaucoup de prises. Puisque Eric est quelqu'un qui prépare beaucoup, c'était pré-éclairé et le temps doit être là pour les acteurs. Le temps est toujours là, doit toujours être là pour les acteurs. Puisque je pense que le travail commence à partir de la première prise. C'est quand on dit moteur que vraiment là on travaille, on regarde la première prise et on se dit... C'est un début, la première prise, c'est pas une fin. Et on se dit, est-ce que c'est ça qu'on veut? Alors si oui, on continue, on améliore. Sinon, on change et on refait une autre version du plan. Et on retravaille jusqu'à 20, 25 prises, mais en s'amusant, en disant toujours des choses aux comédiens, sans reprendre mécaniquement, sans reprendre de façon simplement obstinée ou têtue.
Alors, avec votre monteur François Gédiger, est-ce que c'est essentiellement des choix de certaines prises plutôt que d'autres, ou est-ce que c'est structurellement que le film a changé vraiment au montage? Ou est-ce que vous aviez exactement l'architecture au départ?
Non, ce qui n'a pas changé, c'est qu'on n'a pratiquement pas coupé de scènes, deux toutes petites. On a raccourci les scènes. La scène de bain était encore plus longue. La fête au début était plus longue. On arrivait jusqu'à l'aube. Et on s'est dit que ça suffisait, qu'il fallait avancer. Il est déjà en train depuis le début de rentrer chez lui dans la rue, donc il ne fallait pas non plus le laisser en plan trop longtemps. La chose très surprenante, c'est qu'aucune séquence n'a été changée, n'a été bougée d'ordre, dans l'ordre. Toutes les séquences sont dans l'ordre, elles étaient dans cet ordre-là, dans le scénario. Ce qui est rarissime, vous savez, en général, on intervertit des séquences, on se dit celle-là, elle serait mieux, elle préparerait mieux la précédente, etc. Là, jamais. Mais il a inventé énormément de formes. C'est lui qui a inventé la lettre en carton par 4 cartons, comme ça, de façon à ce qu'on ne lise pas vraiment la lettre, qu'on ait vraiment cette explosion. C'est lui qui est allé même chercher certaines musiques que je n'avais pas repérées dans le matériau que m'avait livré Fabio Vacchi, qui est un très très grand compositeur. C'est lui qui a imaginé aussi que, par exemple, il y a 2 fois le zoom sur la lettre, Monsieur Hervé prend 2 fois l'enveloppe, par exemple, et un certain nombre de choses sont très très formelles, très stylisées. Et il a aidé à la stylisation du film.
Alors pour terminer, justement, on pourrait revenir sur la musique, puisque dans le mélodrame, la musique par définition est essentielle. Cette musique de Fabio Vecchi est étrange parce qu'elle est à la fois post-romantique, on pense à Bruckner, à Mahler, etc. Et en même temps, elle a des accents très modernes.
Oui,
elle
est un c'est peu tonale, oui.
Presque viennois, mais le deuxième école viennoise.
Absolument, mais c'est un...
Dodécaphoniste, oui. À la limite.
Mais elle l'est.
Il y a les deux, oui, mais les deux sont mêlés. Parce qu'on pense à Korngold, à Miklos Rossa, à la grande musique hollywoodienne venue d'Europe centrale. Et puis en même temps, il y a ce côté très très moderne.
C'est une musique absolument d'aujourd'hui. C'est une musique d'un compositeur qui a 54 ans, 55 ans, qui est un grand compositeur, qui est un grand orchestrateur, puisque la connaissance qu'il a des timbres de l'orchestre est extraordinaire. Moi, j'ai vu, parce que je ne savais même pas quels instruments produisaient quels sons. Et à l'enregistrement, quand on a tout réenregistré, il y avait un orchestre de 70 musiciens. C'était magnifique à voir. Et en même temps, c'est... comment dire, c'est à la fois atonal et en même temps, il fait dire, c'est comme Berg, si vous voulez, il fait dire à la musique atonale exactement ce qu'il veut, y compris qu'il devient tonal à un moment donné. C'est une utilisation incroyablement libre de tout le matériel orchestral. Et en plus, quand brusquement on la pose sur les images, ça devient une vraie musique de cinéma. C'est-à-dire, c'est dans la grande tradition de Hitchcock, de Bernard Herrmann, par exemple.
Merci beaucoup Patrice Chéreau. Donc votre film Gabriel est sur les écrans depuis mercredi dernier. On comprendra bien sûr que je le recommande vivement. C'était Projection Privée, une émission de Michel Simon, équipe de réalisation Nathalie Salle, Fabien Gosset. C'était une émission spéciale consacrée à Gabriel de Patrice Chéreau, une émission diffusée la première fois en octobre 2005.